Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit donc avec vous, David Engels. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
Oui, bonjour. Merci bien.
Alors, il y a quelques jours, un article publié dans Foreign Policy plaidait en faveur d'un recrutement à grande échelle de migrants au sein des armées occidentales afin de remédier aux graves pénuries d'effectifs mises en lumière par la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'historien des grandes civilisations? Est-ce que ça rappelle pas un peu la fin de l'Empire romain, tout ça?
Oui, absolument, hélas. Alors, au-delà de son cynisme manifeste, la tendance croissante à considérer l'immigration comme une solution potentielle, non seulement aux difficultés économiques et démographiques de l'Europe, mais également à sa faiblesse militaire, marque un tournant dangereux dans la pensée politique contemporaine. Hier, on utilisait encore le vocabulaire de la nécessité humanitaire ou du pragmatisme économique, et aujourd'hui, on nous parle déjà de la nécessité de nous faire protéger par des armées de migrants. Alors, les arguments paraissent évidemment à première vue à la fois rationnels et historiquement fondés. Si les Européens ne produisent plus suffisamment d'enfants et donc de soldats eux-mêmes, les immigrés pourraient simplement fournir la main-d'œuvre nécessaire à la défense. Le service militaire, affirme-t-on, alors permettrait simultanément de renforcer les forces armées européennes et d'accélérer l'intégration des nouveaux arrivants dans une identité civique commune, contribuant ainsi à résoudre les profondes divisions d'une société européenne marquée par la migration de masse et la fragmentation ethnoculturelle. Alors, considérée superficiellement, cette proposition possède une certaine plausibilité purement mécanique, puisque tout au long de l'histoire, le service militaire a en effet constitué un puissant instrument d'intégration sociale. La discipline partagée, l'exposition commune aux dangers, la participation au sacrifice collectif ont en effet souvent forgé des loyautés plus efficacement que tous les programmes administratifs ou éducatifs. Comme le rappelle d'ailleurs l'article mentionné, les unités auxiliaires romaines, la Légion étrangère française ou encore la naturalisation américaine par le service militaire démontrent que l'engagement armé peut, du moins temporairement, transformer des étrangers en défenseurs d'un ordre politique établi. Mais, c'est précisément ici que réside la limite décisive de cet argument. De tels systèmes ne fonctionnent que tant que la civilisation d'accueil, malgré son déclin démographique, conserve encore une autorité culturelle incontestée. Car l'intégration militaire suppose une asymétrie. Les nouveaux venus doivent percevoir leur entrée dans la civilisation dominante comme une élévation et non pas comme une substitution. Dès que cette hiérarchie psychologique s'affaiblit, le mécanisme qui renforçait autrefois l'État commence progressivement à le dissoudre.
Et alors, auriez-vous quelques exemples de cette mécanique historique ?
Oui, volontiers, l'Empire romain constitue naturellement le cas le plus souvent invoqué, quoique fréquemment de manière simplifiée. Sous les premiers Césars, les soldats non-romains recrutés aux frontières se révélèrent en effet indispensables à la stabilisation de territoires immenses et un service loyal dont les légions garantissaient une bonne solde, la citoyenneté pleine et entière avec tous ses privilèges, la participation au prestige romain et à terme l'octroi de terres. Ainsi, d'anciens barbares installés dans les provinces frontalières devinrent paradoxalement les meilleurs agents de la romanisation. Mais ce système ne fonctionnait que parce que, et tant que, Rome demeurait un modèle civilisationnel irrésistible, y compris pour ses ennemis. Mais au 3e et 4e siècle, la situation change radicalement. Contraction démographique massive, surcharge fiscale, épuisement civilisationnel, pacifisme croissant, affaiblissement de la cohésion civique, tous contraignirent les empereurs à dépendre toujours davantage de troupes issues, notamment des populations germaniques, lesquelles conservaient progressivement leur propre chef, leurs propres coutumes, leur loyauté. Et ces forces ne cherchaient plus désormais à devenir romaines, elles entendaient bénéficier directement des avantages de la civilisation romaine en devenant leur maître. Les commandants militaires d'origine barbare devinrent alors faiseurs d'empire, installant ou renversant à leur gré hauts fonctionnaires et souverains, jusqu'à ce que l'autorité impériale elle-même ne devienne largement symbolique. L'armée, donc jadis instrument de l'ordre romain, se transforma progressivement en vecteur de la disparition de l'empire et de l'émergence des royaumes germaniques post-romains. Et le cas romain n'est nullement exceptionnel. Des dynamiques comparables apparaissent ailleurs dans l'histoire mondiale. Dans l'Égypte du Nouvel Empire tardif, des mercenaires libyens renforcèrent d'abord des armées pharaoniques affaiblies, mais au fil des générations, Ils s'installèrent durablement, conservèrent leur solidarité tribale, accumulèrent un pouvoir régional jusqu'à l'avènement de dynasties libyennes régnant sur l'Égypte elle-même. En Mésopotamie aussi, des élites militaires amorites servirent d'abord l'empire sumérien déclinant de la troisième dynastie d'Ur, avant de fonder des royaumes successeurs, tels que Isin, Larsa et puis Babylone. Le monde islamique fournit un autre parallèle. Les soldats esclaves turcs, recrutés pour défendre le califat abbasside, acquirent une autonomie croissante, transférant progressivement le pouvoir militaire vers des élites dont la loyauté reposait davantage sur leur propre réseau de commandement que sur le califat, ouvrant d'ailleurs donc la voie au sultanat turc. Même la Chine classique vit la dynastie des Han orientaux dépendre de troupes auxiliaires nomades d'Asie centrale, dont certaines fondèrent ultérieurement des dynasties dominantes dans le nord du pays. À travers toutes ces civilisations très différentes apparaissent donc des similarités structurelles récurrentes. Les soldats étrangers renforcent d'abord des États en déclin parce que la population autochtone se détourne de la guerre tout en demeurant aux manettes d'une civilisation encore efficace, riche et admirée. Mais l'équilibre se modifie progressivement à mesure que s'accentue l'épuisement démographique et moral et que s'affaiblit la capacité assimilatrice de la civilisation d'accueil. Le monopole de la violence légitime finit alors par se déplacer hors de la communauté politique originelle et les mercenaires ou les soldats professionnels, autrefois méprisés, deviennent les véritables détenteurs du pouvoir. Ce qui rend le débat européen contemporain particulièrement frappant, c'est l'absence quasi totale de ces précédents historiques dans la discussion publique. L'Europe fait aujourd'hui face à une contraction démographique sans précédent en temps de paix, accompagnée d'un déclin de la confiance civique, de la perte de son avantage technologique et économique et d'une profonde incertitude quant à son identité culturelle. Dans de telles conditions, recruter massivement des soldats dont les loyautés formatrices se sont construites en dehors du cadre historique de l'Europe pourrait sembler résoudre certains problèmes à court terme, mais introduira une hypothèque historique lourdissime de conséquences à long terme.
Et comment peut-on imaginer concrètement l'impact d'une telle décision sur notre civilisation ?
Bon, dans une première phase, bon nombre d'immigrés manifesteraient probablement un engagement sincère envers leur société d'accueil, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses forces de police et des forces armées d'Europe occidentale, surtout tant que le commandement reste compétent, patriotique et légitime. Mais toutefois, le problème historique surgirait tôt ou tard du fait des dynamiques collectives et générationnelles inévitables. L'armée constitue en effet le garant ultime de l'ordre politique, celui qui contrôle la violence organisée et légitime, définit en dernière instance la souveraineté. Et lorsque le recrutement dépendra de plus en plus de populations dont le poids démographique croît, tandis que celui de la population autochtone diminue, l'équilibre de la légitimité politique se transformera progressivement. Les forces armées, conçues comme des instruments d'intégration, pourraient donc évoluer vers des entités sociales autonomes jouant désormais un rôle de médiation entre des populations culturellement de plus en plus divergentes, en particulier dans ce 21e siècle, marqué par encore un peu l'attrait de la civilisation européenne et l'occidentalisation indéniable, même des groupes les plus opposés à l'Occident, comme par exemple l'islam, qui se trouve dans une profonde crise d'identité entre fondamentalisme et autodissolution. Mais petit à petit, l'autorité politique sur l'Europe pourrait dépendre de plus en plus du maintien de la loyauté de groupes dont les relations historiques avec les traditions européennes restent au mieux indirectes et au pire conflictuelles, et qui n'ont jamais complètement oublié leurs véritables origines. Alors, en période de crise, l'effondrement économique, des troubles internes, la paralysie des institutions, la tentation d'arbitrer les conflits politiques par l'autorité militaire pourrait devenir irrésistible. Surtout si une telle situation s'inscrit dans un conflit plus large entre les derniers vestiges de la civilisation européenne et un islam de plus en plus affirmé et démographiquement fort. Cela n'impliquera même pas la nécessité d'un conflit militaire à grande échelle entre soldats d'origine étrangère et autochtones, car l'histoire montre que de telles transitions se produisent rarement à la suite de conquêtes spectaculaires. Bien souvent, elles se déroulent simplement par le biais d'une adaptation progressive et de transfert de pouvoir, jusqu'à ce qu'alors la continuité quotidienne devienne indissociable d'une transformation radicale de la civilisation, comme ce fut le cas par exemple à la fin de l'Antiquité. En conclusion, donc, une civilisation qui confie sa défense à des forces extérieures reconnaît implicitement l'affaiblissement de sa confiance dans son propre avenir démographique, militaire et culturel. L'externalisation stratégique devient alors à la fois un symptôme et un accélérateur du déclin. La question à laquelle l'Europe est donc aujourd'hui confrontée dépasse largement les politiques migratoires ou de défense. Elle concerne surtout la volonté même de notre civilisation d'assumer ou non le fardeau de sa propre préservation. Si l'histoire enseigne bien une chose, c'est que la puissance militaire reflète en dernier ressort la confiance culturelle plutôt que la simple substitution démographique. Reste à savoir si l'Europe contemporaine possède encore la capacité de retrouver cette confiance ou si elle suivra la trajectoire bien connue des civilisations épuisées qui cherchaient leur salut dans une force militaire migrante empruntée pour finalement devenir eux-mêmes la proie et les victimes de ceux qu'ils avaient jadis recrutés pour les défendre.
Merci beaucoup David Engels pour cette chronique et cette analyse. C'est toujours bon de s'éclairer du passé pour essayer de comprendre les dynamiques présentes. On peut compter sur vous là-dessus. Je vous dis à la
Avec
semaine
plaisir.
prochaine. Merci.
Avec plaisir. Au revoir, à la prochaine.
Ligne droite, l'analyse.
On avait hâte d'entendre cette analyse de Régis Le Sommier aujourd'hui, vu la situation en Iran. Bonjour Régis.
Bonjour Liselotte.
Et vous êtes au micro d'Alexandre de Galzin.
Oui, alors bonjour Régis. Évidemment, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de ces frappes qui ont été réalisées en Iran, ce début de la guerre finalement entre les États-Unis, Israël et l'Iran. La première question qui est la plus essentielle, vous n'êtes pas dans l'esprit de Donald Trump bien sûr, mais selon vous, pourquoi avoir lancé une telle opération?
Je dois avouer que je me suis arraché les cheveux ce week-end en imaginant pourquoi Donald Trump avait in fine décidé de faire cette opération. Alors, il y avait des signes avant-coureurs, hein, la présence de deux porte-avions, on va dire le Gérald Ford sur la Méditerranée en appui d'Israël en fait, et puis l'Abraham Lincoln dans l'océan Indien à plus de 2000 km de distance l'un de l'autre, mais avec leur groupe aéronaval, tous les moyens déployés qui n'avaient pas été vus depuis l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Laisser penser qu'il serait difficile de ne pas faire quelque chose. Maintenant, sur l'ampleur de l'opération, on aurait pu imaginer que Trump frapperait à minima, qu'il y aurait une sorte de guerre spectacle, comme on en avait un peu pris l'habitude, c'est-à-dire, je dis pas que celle de la guerre des 12 jours en juin 2025 était une guerre spectacle, mais elle était menée par Israël, avec un appui américain certes, mais dont on ne faisait pas une publicité extrême, et puis cette manière que Trump avait eue d'intervenir le 21 juin avec l'opération Marteau de minuit pour endommager au maximum le potentiel nucléaire, les centres de recherche iraniens, et déclarer le cessez-le-feu et la fin de la guerre à la fin. Donc, c'est-à-dire que Trump pouvait conserver l'attribut qu'il a voulu depuis le début du conflit, c'est-à-dire du président de la paix. La paix armée, certes, de la paix par la force, certes, mais qui le laissait dans cette catégorie. Aujourd'hui, forcé de constater que ce n'est plus le cas, d'autant que il y a eu l'information principale pour le public américain hier, c'est la mort de trois soldats, qui pose un énorme problème à Trump, puisque là même par rapport à sa base, il est en porte-à-faux.
C'est le discours effectivement des America First, donc l'Amérique d'abord, qui est de dire que aucun soldat américain, aucun américain de manière générale, ne doit aller mourir pour une guerre lointaine. Discours qui évidemment est une réaction à tous les néoconservateurs comme Bush et d'autres par le passé.
Tout à fait. Et le positionnement américain depuis le début, depuis le retour de Donald Trump, il y a un an, a été bien dirigé vers cette nouvelle politique internationale qui considère que les États-Unis doivent représenter une zone d'influence, doivent un espace, on va dire. La fameuse doctrine Monroe, rebaptisée doctrine Donroe, sous la férule de Donald Trump, et que, eh bien, il existe un certain nombre de pôles dans le monde. Là, on passe dans une dimension complètement différente qui rappelle, à bien des égards, ce qui est très intéressant, les précédentes interventions. Moi, je suis quelqu'un qui a été beaucoup marqué par la guerre en Irak. d'Irak, la deuxième guerre d'Irak, celle qui a été démarrée en 2003, c'était le début de ma carrière et j'ai passé quantité de temps sur le terrain avec les troupes américaines à l'époque pour comprendre d'abord que la montée à la guerre a été au niveau de l'utilisation des termes quasiment un copier-coller.
Oui.
De façon très intéressante. Là, quand je me suis rendu compte que Marco Rubio, Steve Witkoff, Donald Trump et J.D. Vance réutilisaient des formules qu'on avait vues dans la bouche de George Bush en 2002 sur la question, par exemple, du nucléaire. Mmh. George Bush disait Saddam Hussein cherche à obtenir l'arme atomique. À l'époque, l'administration Bush était allée jusqu'à envoyer l'ambassadeur Wilson, Joe Wilson, au Niger pour trouver des preuves que Saddam Hussein avait tenté de se procurer de l'uranium pour fabriquer une bombe, en gros. Je dirais que c'est un peu plus sérieux, parce qu'on sait que des Iraniens ont 440 kilos d'uranium enrichi à plus de 60%. Quand on a un uranium enrichi à plus de 60%, c'est pas pour on va dire, l'utiliser dans une centrale atomique pour fabriquer de l'électricité. Donc là, on est face à un mais dans le wording, comme qu'on aime bien ces termes à la mode, on regarde que
dans le phrasé.
Par exemple, également autre indication, Marco Rubio disait vendredi dernier, les Iraniens sont en voie de fabriquer des missiles qui atteindront les États-Unis. Le même discours avait été appliqué à Saddam Hussein en 2002.
Alors que là, actuellement, pardon, je regardais la portée potentielle des missiles iraniens, ce qu'ils peuvent frapper de plus à l'ouest. C'est à peu près la Serbie, quoi. Enfin, le missile le plus lointain pourrait éventuellement atteindre la Serbie. Mais bon, ça fait quand même une hypothèse très très lointaine, quand même.
Ils ont atteint une base à Chypre, là. Oui. Voilà, la base de l'Arnaca britannique à Chypre. Donc ils ont ces capacités, mais là aussi, c'est pas des choses extrêmement nouvelles que l'Iran ait développé son arsenal de missiles. On sait qu'ils travaillent dessus depuis 2003 et qu'ils ont négligé d'autres compartiments de leur armée pour pensant que l'avantage stratégique qu'ils auraient serait lié aux missiles. On ne sait pas s'ils auront raison ou pas encore.
Alors je reviens à ma question d'origine, pourquoi ?
Oui, alors c'est vrai que la pression de Netanyahou a été du Premier ministre israélien a été énorme. Il a fait quand même, depuis le retour de Trump, 7 déplacements à Washington.
Ou à Mar-a-Lago, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. La dernière fois, il s'est rendu voir Trump, alors que ce n'était pas prévu, c'était il y a quelques semaines, devançant une visite prévue d'avance, et repartant sans rien dire, sans faire de conférence de presse. On ne sait pas trop ce que les deux hommes se sont dit, mais il y avait une manière d'expliquer finalement à Donald Trump qu'il y avait une fenêtre de tir maintenant, mais une fenêtre de tir qui, du point de vue américain, plus du point de vue américain que du point de vue israélien, comporte des risques. Je me dirais, les Israéliens sont les premiers concernés par la riposte iranienne, même si elle est moins spectaculaire que pendant la guerre des 12 jours jusqu'à présent, encore que hier soir, on a vu des armes hypersoniques nouvelles et un nouveau type de missile utilisé contre Jérusalem. Donc, tout ça n'est pas fini. Hein. On n'en est qu'au troisième jour de la guerre. Donc, il y a des risques, évidemment, pour Israël, mais je dirais le risque majeur, il est du côté de Donald Trump. Principal problème, se mettre en porte-à-faux avec sa base. Marjorie Taylor Greene, qui est l'égérie MAGA, qui a déjà rompu avec Donald Trump, a expliqué qu'il avait trahi ses électeurs. Tucker Carlson, la semaine dernière, est allé voir Donald Trump à la Maison-Blanche pour lui dire de ne pas intervenir en Iran.
Nick Fuentes,
de la même manière, exactement, de la même manière que Charlie Kirk, qui est le martyr des MAGA, avait à l'époque expliqué à Donald Trump au moment de la guerre des 12 jours de ne pas intervenir en Iran. Donc on est sur un sujet extrêmement sensible. On sait que cette base, il en a absolument besoin pour les élections de mid-term qu'il risque de perdre, et que le secret pour gagner une élection aux États-Unis, c'est d'abord de mobiliser sa base. S'il y a une partie de cette base qui commence à dire il nous a trahis, il nous a promis de ne pas intervenir et on est reparti dans un scénario à l'irakienne ou à l'afghane, évidemment ça va mal se passer en novembre dernier. Donc la vraie question, c'est voilà, de se dire, je pense que Donald Trump a joué, si vous voulez, fondamentalement, la sidération. Je pense qu'il a estimé que, faisant preuve culturellement, malheureusement, et ça c'est un grand classique, d'une, de ce sentiment d'infinie supériorité de l'Occident par rapport aux pays tiers. Voilà.
Voir des États-Unis tout simplement.
Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est-à-dire cette espèce de sacro-sainte croyance que, in fine, quand on n'arrive pas à mener une négociation, moi c'est ce que j'appelle le syndrome de l'écrasement. Le syndrome de l'écrasement, c'est l'invention par les Américains de ce terme qui existe depuis la guerre du Vietnam de carpet bombing. Mm. On va écraser sous un tapis de bombes, tapis, carpet, l'adversaire, et on va le faire capituler. La réalité, c'est qu'il suffit de prendre des pages d'histoire contemporaine, du Vietnam à la Libye, en passant par l'Afghanistan et l'Irak, etc., toutes ces interventions, jamais cet usage immodéré de la force n'a solutionné les problèmes, voire parfois les a fait empirer.
Alors, je reviens encore presque à ma question, mais dans le fond, alors que Donald Trump a les midterms qui arrivent en novembre, qu'il est déjà, à cause de problèmes internes aussi aux États-Unis, loin d'être sûr de les remporter.
Particulièrement la Chambre.
Effectivement, qu'il a cette crainte de perdre toute sa base America First. Mmh. Donc, à partir du moment où il y a effectivement le risque de l'embrasement. Mmh. On a l'impression qu'il même inquiète profondément Trump. C'est l'impression qu'on avait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on voit avec le Venezuela une opération très courte, très assez chirurgicale en tout cas. Le traumatisme du retrait de l'Afghanistan, toutes ces choses-là pour Trump ont l'air d'être insupportables. C'est-à-dire l'idée d'occuper un pays, etc., et de perdre des soldats américains à l'étranger. Est-ce que la réponse se trouve dans l'éternel... Est-ce que c'est la même réponse qu'on pouvait apporter il y a 20 ans, etc., aux Américains, est-ce que la réponse c'est le pétrole ?
Alors oui, et certainement les enjeux, quand on veut comprendre la boussole Trump ou se repérer dans le logiciel du président américain, il y a deux éléments. Il y a la question effectivement des ressources, qu'elles soient énergétiques, terres rares et autres minerais. Et l'autre élément, c'est la Chine. Si on prend en compte ces deux paramètres, c'est-à-dire un petit peu la tentative de contrôle du premier à des fins de lutter contre le deuxième, on a à peu près l'explication de la façon dont Trump fonctionne.
Parce que, quand même, il faut rappeler que l'Iran vend l'immense... Enfin, en fait, produit l'immense majorité du pétrole chinois.
Oui, tout à fait. Ça correspond à peu près à 10-15% du pétrole chinois. Le Venezuela, je le rappelle, c'était 10% aussi. Mm. Et là aussi, on l'a su quand Trump a mis la main sur les champs pétrolifères du Venezuela, qui sont les principales ressources mondiales aujourd'hui, il a expliqué aux Chinois qu'ils pourraient continuer à faire du business, mais avec eux cette fois-ci. Ce serait, ils n'auraient plus de pétrole vénézuélien comme ça. Donc voilà, ça c'est le positionnement, c'est la stratégie Trump in fine. Maintenant, sur la façon dont le président américain conduit sa politique internationale, il y a aussi un élément important à prendre en compte, c'est Trump opère dans l'international comme il opérait dans les affaires, c'est-à-dire avec des coups spectaculaires, des prises de position ultra extrêmes, de façon ensuite à revenir sur certaines positions et négocier. C'est toujours comme ça qu'il procède. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il a réussi son coup. Je pense que c'est aussi une des explications. Il a réussi son coup avec Maduro et avec le Venezuela, tout en reprenant l'intégralité des structures chavistes en place et en mettant à la place de Maduro l'adjointe de Maduro. Disons, on va faire des affaires avec Delcy Rodriguez, qui est une fanatique du régime, mais on ne va pas changer le régime et on va en fait faire un régime allié à la manière dont les Américains étaient alliés avec Marcos ou avec Pinochet, qui étaient des dictateurs. Ce n'est pas l'important. Il n'y a pas de morale derrière. Mais attention, je termine le développement sur la question de l'Iran. Il savait que pour l'Iran, ça serait beaucoup plus compliqué, mais il savait que la corrélation, on va dire, de faire de l'Iran un Venezuela 2.0 était lié d'abord à l'élimination du chef, du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. La limite de l'exercice, c'est-à-dire que Trump ambitionne, on l'a vu hier dans son interview à Politico, il ambitionne de prendre quelqu'un du régime. Là, il a dit, tous ceux qu'on avait en tête sont morts, on les a décapités. Maintenant, il y a un personnage qui s'appelle Ali Larijani, qui est le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale actuelle, à qui Khamenei, avant sa mort, avait donné des directives de contrôle du pays, qui avait de larges contributions, qui est un peu revenu en gloire à la fin, après avoir fait deux tentatives pour devenir président de l'Iran, qui avait été retoqué par les gardiens de la Révolution. Larijani est lui-même un ancien gardien de la Révolution, il coche plein de cases, et surtout, il est compatible avec l'international, parce que c'est lui qui a mené toutes les négociations sur le nucléaire, et en particulier l'accord de 2015, conclu à Vienne, qui permettait à la communauté internationale de contrôler l'usage du nucléaire iranien en échange d'un certain nombre de levées de sanctions. Donc ça veut dire que Trump ambitionne sans doute, le New York Times l'esquisse, de prendre peut-être Larijani et de faire un calque de ce qui s'est passé au Venezuela, en sachant que c'est beaucoup plus difficile en Iran et qu'on n'est absolument pas certain. Il y a plein d'incertitudes, mais on n'est surtout pas certain que les gardiens de la Révolution vont rentrer dans le rang et seraient capables, imaginons, de se mettre avec un régime qui accepterait la tutelle américaine, de facto. Donc, le problème, il est là, c'est qu'il y a l'art du deal à la Trump, il y a la projection avec l'idée d'agir, et quand tu agis, ben tu... Mais c'est très intéressant parce qu'il est un peu coincé, il risque de se retrouver coincé de la même manière que Poutine s'est retrouvé coincé en Ukraine. Imaginons une campagne rapide, imaginons que Zelensky cède le pouvoir, que finalement, pour terminer par une guerre qui dure depuis 4 ans. Et là, Trump a créé, avec la complicité de Netanyahou totale, mais pour Netanyahou, c'est assumé. Je dirais que la position de Netanyahou, elle est beaucoup plus claire que celle de Trump. Le risque, c'est de mettre de créer le chaos dans l'économie mondiale. Oui. C'est terrible.
Alors, même au-delà de l'économie mondiale, Régis Semi, reste juste un premier point sur l'Iran. C'est-à-dire qu'évidemment, beaucoup de nos auditeurs, et de Français d'ailleurs, se réjouissent pour les Iraniens de la mort de l'ayatollah Khamenei et de la tête du régime iranien, qui effectivement était une dictature islamiste qui opprimait son peuple. Ce que vous nous expliquez quand même, c'est
vous
que Donald...
C'est
toujours, vous avez raison. Non, mais c'est juste parce qu'ils sont morts. Mais,
c'est pas la mort d'un homme, là aussi,
oui,
c'est
justement,
encore une...
J'y arrive, c'est ce que vous expliquez, c'est que selon les informations disponibles, Donald Trump ne souhaiterait absolument pas un changement de régime plus démocratique, qui autoriserait plus de liberté, mais simplement un nouveau pouvoir fort qui garderait les mêmes bases et qui serait plus à même d'être favorable aux États-Unis.
Alors, si Trump arrive à sauver la situation, qui me paraît extrêmement mal embarquée au vu de la riposte iranienne, parce que les Iraniens ont tenté, regardez, il y a eu deux aspects. Pendant la fin des négociations, qui ont été des négociations d'ailleurs, l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères Omaneh, qui était le médiateur de ces négociations, était extrêmement favorable. C'est-à-dire que les Américains avaient obtenu, avant de déclencher leur frappe, un accord ou un projet d'accord avec les Iraniens de zéro enrichissement, d'élimination des stocks d'uranium enrichi. Bref, les Iraniens avaient cédé sur des demandes capitales des Américains. Donc on était sur un deal bien meilleur que celui de 2015, en termes de pouvoir de contrôle sur les activités nucléaires iraniennes. Maintenant, il y avait la question du balistique et la question des proxys iraniens sur lesquels l'Iran ne voulait pas toucher. Mais si vous voulez, on avançait vers un... Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les Iraniens ont compris, parce que ce sont des gens malins, qu'il fallait titiller Trump du côté du portefeuille. Donc, ils lui ont proposé un plan, en plus de ce qui avait été négocié sur le nucléaire, d'accès aux ressources. L'Iran est une des principales fournisseurs avec l'Arabie et le Venezuela, ce sont les trois pays principaux producteurs de pétrole au monde. Et donc là, il y avait des incitations à faire du business. Ils l'avaient très bien vu comment Trump a négocié avec Poutine. Et donc, ils ont voulu reproduire la même chose. Trump, in fine, n'a pas voulu. Donc, qu'est-ce que font les Iraniens à l'heure où nous parlons? Ils tapent tous les alliés des Américains dans la région. Ils sont en train de mettre à genoux les économies des pétromonarchies. Ils frappent toutes les ambassades américaines, montrant d'ailleurs la vulnérabilité extrême des alliés américains, des bases américaines, des ambassades. À l'heure où nous parlons, l'ambassade américaine à Manama, au Bahreïn, est en flammes. hier dans la soirée, les Ajanshabi, qui sont les milices chiites iraniennes et irakiennes, inféodées à l'Iran, ont attaqué l'ambassade américaine à Bagdad, qui est la plus grande ambassade américaine au monde, symbole de l'occupation américaine pendant 10 ans en Irak. Donc, si les Ajanshabi, par exemple, conquièrent ces ambassades, là, vous avez des effets. En fait, potentiellement, vous avez dans chaque endroit le potentiel. Quand je disais Bahreïn, c'est à dessein. Pourquoi ? Parce que Bahreïn est une pétromonarchie dirigée par un sultan, sunnite, un roi sunnite qui maintient sous diktat une population composée de 65% de chiites. Et quand les fusées iraniennes s'abattent sur les intérêts américains et les intérêts du Bahreïn, la population chiite en ce moment applaudit. Donc il y a une possibilité de déstabilisation, l'Iran le sait très bien, également sur les champs pétrolifères de l'Est de l'Arabie Saoudite, là où il y a les principales ressources, qui sont occupées majoritairement par des chiites. Donc l'Iran peut déstabiliser ces pays-là, peut faire en sorte, que, via ses proxys pour le coup, les Houthis, on l'a un petit peu oublié à une époque, avaient tiré des missiles et des drones sur les installations de l'Aramco en Arabie Saoudite, perturbant et privant pendant 2 jours de la moitié de la production saoudienne. Le métrique principal du secteur, c'est la production du nombre de barils saoudiens par jour. Quand on le fait diminuer par 2, c'est une crise majeure dans l'économie mondiale. Les Houthis à eux seuls étaient parvenus à le faire. S'ils veulent le refaire et si les Iraniens leur donnent l'ordre, ils le feront sans aucun état d'âme. Vous avez un certain nombre alors, le Hezbollah est diminué au Liban, mais il a quand même été capable ce matin de recommencer à tirer sur le sud d'Israël, sur le nord d'Israël. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que si la guerre se prolonge et s'il n'y a pas d'effet sur le gouvernement iranien, si cette guerre maintient le pouvoir en place et que, comme on l'a vu, des gardiens de la révolution maintenant régionalisés, parce que c'est bien beau pour l'armée américaine de clamer hier soir qu'ils ont détruit le siège des gardiens de la révolution à Téhéran. C'est pas à Téhéran qu'il faut frapper. Aujourd'hui, les commandants IRGC avec leurs troupes sont dans les différentes provinces. L'Iran, c'est 1,5 million de kilomètres carrés. Ça fait depuis 79 qu'ils se préparent à cette guerre. On dirait les Américains, les Israéliens aussi, mais rien ne peut aujourd'hui expliquer quelle en sera l'issue, ni dans quel état la région va en ressortir.
Oui.
Parce qu'un Iran instable, imaginons par exemple pour l'économie de Dubaï, d'Abu Dhabi, de Doha, qui sont des puissances économiques aujourd'hui considérables. L'aéroport de Dubaï à Maktoum, là, qui est complètement figé aujourd'hui, c'est le principal aéroport au monde. C'est de là où transitent tous les échanges commerciaux, touristiques, entre l'Est et l'Europe, en fait. Et donc, on est il y a une telle incertitude. Mais là, les Iraniens, pour revenir à ma démonstration et la terminer, les Iraniens attaquent Trump sur l'économie, parce qu'ils savent que c'est le principal souci pour lui.
Bien sûr.
Et que, finalement, ces régions-là avaient promis aussi les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, d'injecter chacun quasiment un mille milliards de dollars dans l'économie américaine. Si ça ne se fait pas, quelle est la promesse de prospérité?
Oui, puis où elle est, même de manière générale, si le prix du baril monte aux États-Unis, ça risquera forcément d'augmenter le mécontentement de façon tout à fait mécanique. Il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas seulement le pétrole, il y a aussi, je rappelle aux auditeurs, un 20% du gaz naturel liquéfié mondial qui transite par le détroit d'Hormuz, qui est actuellement bloqué par l'Iran. Donc ça, ce sera un autre sujet. Mais sur ce qui est interne à l'Iran, Régis Sommier, d'aucuns en Occident et plus particulièrement en France ou aux États-Unis font l'éloge de Reza Pahlavi, qui est donc le fils du précédent Shah, qui gouvernait le pays donc jusqu'en 79, et appelle à ce que ce dirigeant, qui pour le coup lui se montre extrêmement occidental dans sa manière de se présenter, appelle à ce que lui prenne le pouvoir. Je crois qu'on l'a même vu dans un JT il y a quelque temps
en France,
voilà. Est-ce que il existe des alternatives qui seraient effectivement, enfin, quelles sont les alternatives à part celles que vous avez décrites pour l'Iran? Et à côté de ça, vous rappeliez que l'Iran est un pays divisé et sectorisé. Effectivement, quel est le risque aussi au niveau des minorités kurdes, minorités baloutches, minorités arméniennes? Enfin, qu'est-ce qui peut se passer en interne? Est-ce qu'on peut assister à une implosion de l'Iran?
Le vrai problème auquel on est face actuellement avec l'Iran, c'est l'impossibilité d'avoir une union, on va dire, effective de l'opposition. Il y a des signes quand même rassurants, c'est que la plupart des leaders des groupes que vous avez cités ne veulent pas toucher à l'unité de l'Iran. Si on accepte peut-être les séparatistes balouches dans certaines formes, les autres considèrent qu'il faut continuer, que le pays qu'il faut garder l'unité. Ça, c'est un bon signe. Maintenant, imaginons que le régime s'effondre et que ces groupes d'opposition soient aux affaires, peut-être que la perspective risque de changer. Mais pour moi, que ce soit pas la vie ou que ce soit un autre, et pas la vie peut-être représenter cette alternative d'une monarchie éclairée, constitutionnelle, inclusive, etc., et qui satisfasse l'Occident et qui fasse une véritable révolution en Iran, ça c'est une possibilité. Maintenant, la question principale n'est pas la question tant de l'opposition, mais que faire et que vont devenir les Pasdaran, les Basiji et tout le maillage de la société, parce qu'on est en Iran, il y a 92 millions d'habitants, officiellement il y a 150 000 Pasdaran. Il y a plus que 150 000 Pasdaran pour diriger ou pour contrôler 92 millions d'habitants. Et je peux vous dire que l'Iran est un pays extrêmement contrôlé pour y être allé, je le sais très bien. Donc aujourd'hui, ces gens-là, quelle est leur alternative? On leur fait la guerre, ils incarnent le régime, ils ont d'ailleurs une légitimité qu'ils tirent à la fois de la révolution islamique menée par Khomeini, mais surtout des 10 ans qui ont suivi de guerre Iran-Irak, qui ont fait 1 million de morts en Iran, qui ont donné ces structures de société. La plupart des dirigeants des Pasdaran sont des gens qui ont combattu pendant cette guerre Iran-Irak, qui a été une guerre unificatrice et dont le souvenir est ancien et le souvenir est toujours présent. Pourquoi? Parce que l'Iran était seul à l'époque. Toute la communauté internationale.
Et d'ailleurs, on en parlait brièvement hors antenne, Régis Sommier, mais il y a le risque aussi d'un réflexe anti-occidental, anti-américain, anti-israélien.
Ça va avec ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand on vous balance des bombes sur la tête, il est difficile après d'embrasser ceux qui viennent vous libérer. C'était même à l'époque du débarquement, c'était un gros argument utilisé par la propagande de Vichy. Quand les villes normandes en particulier ont été détruites. Ils ont regardé vos libérateurs, ils sèment la mort, voilà. Et ça, c'est très très difficile de dire, laissez-nous vous bombarder pour vous libérer. Mais c'est un peu ce que dit le message de Trump. Donc là, je pense qu'il y a une méconnaissance ou une volonté peut-être délibérée de ne pas voir que le monde chiite aujourd'hui est en train de... est en ébullition totale, que des forces à laquelle on n'imaginait pas sont peut-être en train de rejoindre l'Iran, que les Ajal Shabi, les milices populaires de mobilisation populaire en Irak vont peut-être rentrer dans le jeu. On a vu des manifestations de soutien à l'Iran après la mort de Khamenei jusqu'au Nigeria, où il y a une communauté chiite au Nigeria. Donc c'est, voilà, on est dans un engrenage, le feu a été mis, on ne sait pas où ça va aller. Et face à ça, pour terminer sur Donald Trump, je pense qu'il y a une exigence de sa part que ça se passe le plus vite possible, de façon à pouvoir se retirer et pouvoir
limiter les pertes.
Il a déjà son trophée Khamenei, il faut qu'il puisse dire, regardez, j'ai résolu le problème. Si ça dure plus de 10 jours, ça va être très très compliqué.
Eh bien écoutez, dans moins de 10 jours, vous serez encore ici à notre antenne, Régis Sommier. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place.
faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors les écologistes viennent de remporter l'élection législative partielle à Gorton et Danton au Royaume-Uni. Et en quoi cette victoire est le signe d'une évolution politique qui menace toute l'Europe?
Ce qui est très intéressant lors de ces élections, c'est qu'on a vu que la dimension identitaire et communautaire du vote est extrêmement importante au Royaume-Uni. C'est un phénomène qui commence vraiment à prendre de l'ampleur dans le pays et qui menace à terme de s'étendre au reste de l'Europe. Donc, comme vous l'avez dit, les écologistes ont remporté la victoire dans un bastion, dans une circonscription qui est vraiment un bastion du Parti travailliste, donc le grand parti de gauche britannique, qui avait réalisé 51% des voix en 2024 et même 67% des voix en 2020. Les écologistes remportent 41% des voix et donc progressent de 27 points par rapport aux dernières élections. Et le Reform, le parti populiste de droite de Nigel Farage, est second avec 29% des voix. Et on voit un effondrement des travaillistes et une chute aussi des conservateurs et des libéraux-démocrates. Ce qui est extrêmement intéressant de ces élections et ce qui a beaucoup joué dans le vote, c'est la dimension communautaire du vote, en fait. Cette circonscription est une circonscription très pakistanaise, en fait. Il y a une très grande communauté pakistanaise dans la circonscription. Et non seulement on a vu un vote massif de la communauté pakistanaise pour les écologistes, mais surtout on a vu une campagne très clairement communautaire de la part des écologistes. Alors, on a une focalisation sur Gaza et de nombreuses attaques contre le Parti travailliste accusé de ne pas être assez en soutien des Palestiniens. Mais surtout, on a vu des tracts et des clips de campagne en ourdou, donc la langue du Pakistan. Donc les écologistes ont assumé de s'exprimer directement à ces populations-là. Et on a vu aussi lors des votes du family voting, ça veut dire des familles qui rentraient ensemble dans les bureaux de vote pour voter tous ensemble. Donc on a vu vraiment quoi. Donc cette victoire des écologistes s'explique par cette montée en puissance du clivage communautaire. Et en même temps, on a vu un backlash avec la montée du vote reform, donc du vote populiste de droite anti-immigration. Donc ces élections ont vraiment témoigné de ce qu'on voit de plus en plus au Royaume-Uni, c'est-à-dire la montée en puissance du clivage communautaire qui est en train de balayer les partis classiques et qui a favorisé la montée en puissance d'un côté du reform et de l'autre côté des écologistes.
Et ce phénomène est-il en train de concerner tout le Royaume-Uni?
Oui, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus une montée en puissance des enjeux identitaires et communautaires dans le pays. Pour le moment, le Labour et les écologistes bénéficient du vote des minorités, mais on voit qu'il y a un affrontement entre eux de plus en plus pour gagner le vote de ces minorités. Et en même temps, on voit que les tensions communautaires entre communautés aussi modifient de plus en plus le vote. Par exemple, la communauté hindoue vote de plus en plus pour les conservateurs. Et on voit des circonscriptions entières où on a des candidats conservateurs d'origine hindoue qui affrontent des candidats travaillistes d'origine musulmane. On a aussi, du coup, en réaction à ça, une montée en puissance de Reform. Donc, comme je l'ai dit, le parti de droite anti-immigration dirigé par Nigel Farage. Et on peut aussi noter la montée en puissance des régionalistes. Alors c'est un peu différent, mais malgré tout, ce régionalisme de gauche s'inscrit un peu dans cette montée en puissance des enjeux identitaires, puisqu'on voit que maintenant, le Parti National Écossais, le Plaid Cymru gallois et le Sinn Féin irlandais sont le premier ou le deuxième parti de leur région respective. Donc les logiques communautaires sont en train d'occuper une place de plus en plus importante dans le pays, ils sont en train de remplacer les clivages sociaux classiques.
Et quelles sont les conséquences politiques de ces évolutions?
Alors, comme je l'ai dit, on voit une montée en puissance de partis qui se constituent en grande partie sur ce thème-là. Donc à la fois les Verts du côté on va dire plus communautariste et le Reform du côté anti-immigration. Et on voit aussi que les conservateurs et le Labour sont obligés de prendre position de plus en plus clairement, en fait. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le parti conservateur qui évolue de plus en plus à droite pour essayer de récupérer l'électorat Reform. Mais on voit aussi au sein du Labour, donc des travaillistes de gauche, une montée en puissance, ce qu'on appelle le Blue Labour, c'est-à-dire un courant centriste et très critique de l'immigration, en fait. Donc on voit petit à petit le parti travailliste évoluer sur un positionnement critique de l'immigration, mais ce qui crée en fait une fracture avec une partie de son électorat et même de ses cadres qui partent vers les écologistes ou qui partent vers un nouveau parti, puisqu'on a vu l'apparition du Your Party, un parti politique indépendant du Labour. Ce qu'on voit aussi en Angleterre, un phénomène qui n'y a pas encore trop en France, c'est-à-dire l'apparition de candidats indépendants. C'est-à-dire que lors des dernières élections, on a 5 députés qui étaient issus du Parti travailliste, mais qui sont présentés comme indépendants parce qu'ils étaient sur un positionnement beaucoup plus communautaire. Les 5 sont d'ailleurs d'origine musulmane, et les 5 ont réussi à être élus, en fait. Et donc ces 5 députés et Jeremy Corbyn, le leader historique de la gauche britannique, ont créé un nouveau parti, Your Party, qui visait justement à aller chercher un électorat plus communautaire, plus à gauche. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi des lignes de fracture qui apparaissent, y compris au sein de ce courant, on va dire plus islamo-gauchiste. C'est-à-dire que dès la création du Your Party, le parti est complètement rentré en crise, parce qu'on a vu en fait d'un côté des jeunes militants gauchistes et une partie des populations musulmanes, notamment plus féminisées et plus éduquées, qui se sont opposées à certaines autres franges du parti, composées de musulmans beaucoup plus populaires et beaucoup plus conservateurs en fait. Donc on a vu notamment sur les questions LGBT et sur les questions féministes, un affrontement au sein de Your Party, et le parti est au bord de l'explosion en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit du coup, du fait de la, du fait on va dire de cette montée de l'immigration, un peu l'émergence de trois droites. Du côté des conservateurs, tout le monde est anti-immigration. On a un parti conservateur assez modéré, on va dire sur une ligne un peu LR, de dire bon, on accepte l'immigration légale, mais il faut plus de sécurité, plus d'ordre, ce genre de choses. On voit une droite, celle du Reform, qui ressemble un peu au Rassemblement National en France, qui va être critique de l'immigration. Et on voit même une faction plus radicale, celle du Star Britain, qui, eux, vont carrément parler de réimmigration. Donc on a un peu ces trois droites. Et du côté de la gauche, on voit aussi une fracture entre un centre-gauche qui essaye d'aller sur une ligne plus danoise, on va dire, c'est-à-dire plus critique de l'immigration et assez modérée. On a les Verts qui incarnent une gauche, on va dire, un peu plus islamo-gauchiste, woke, pro-immigration, mais progressiste. Et on commence à voir aussi émerger à travers l'aile, je l'avais dit, plus conservatrice de Your Party, à travers aussi des partis comme le Workers' Party, une gauche très communautaire, mais qui du coup va être beaucoup plus conservatrice en fait. Conservatrice sur les questions féministes, conservatrice sur les questions de mœurs, et parfois même un peu critique de l'immigration, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que ces affrontements entre communautés font que certaines populations commencent à s'interroger sur l'immigration de masse en se demandant si ça va pas favoriser leur adversaire. Par exemple, pendant longtemps, les musulmans étaient confrontés à des populations hindoues qui étaient plutôt éduquées et qui leur posaient pas de problème. Et ce qu'on voit maintenant, c'est une immigration beaucoup plus populaire issue de la communauté hindoue qui met en danger les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a des affrontements de rue parfois entre jeunes musulmans et jeunes hindous. Et du coup, on a certains musulmans qui commencent à être critiques de l'immigration parce qu'ils ont peur que l'immigration provoque une montée en puissance des hindous au détriment des musulmans, en fait. Donc c'est que même au sein des populations immigrées, maintenant, on commence à avoir des discours critiques de l'immigration. Et du coup, on a une explosion complète de l'échiquier politique sur cette question communautaire.
Merci beaucoup pour cette analyse, Raphaël Audouard.
Merci à vous.
Puis, ça donne de belles indications quand même sur la situation dans laquelle on se trouve, même en Europe en général. Merci et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et on poursuit avec vous, Gilles.
Eh oui, bonjour Liselotte, bonjour Franck, bonjour chers auditeurs.
Alors la presse consacre toutes ses unes à l'Iran et à la chute de l'ayatollah Khamenei qui fut au pouvoir depuis 36 ans.
Oui, et puis tous restent très prudents sur une éventuelle chute du régime, on en a parlé ce matin. Il n'y a que l'humanité pour montrer les profils de Benjamin Netanyahou et Donald Trump avec ce titre qui en dit long, Iran, les fauteurs de guerre. Régis Le Sommier rappelait hier dans un long article du JDD que Donald Trump parlait des frappes israéliennes et américaines comme des opérations militaires majeures en Iran avec trois objectifs. Détruire le programme et l'industrie de missiles iraniens, détruire la marine iranienne et enfin empêcher définitivement l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Ajoutant, pour amoindrir le régime, il lui fallait une force conséquente positionnée très proche du territoire iranien. Pas moins de deux porte-avions, écrit Régis Le Sommier, chacun avec son groupe aéronaval, sont donc arrivés sur zone. Un déploiement comme la région n'en avait connu depuis Bush et l'Irak.
Et du côté de Reza Pahlavi.
Oui, alors revenu à Paris d'un entretien avec le président ukrainien qu'il avait vu à Munich, le fils du Shah avait reçu le magazine Le Point pour un entretien. Le verbe précis et le français impeccable, il dressait le tableau d'un pays prêt à basculer. Et dans ce numéro du Point, en vente depuis jeudi, il parle de révolution plutôt que de révolte et encourage les citoyens à, je cite, « reprendre la rue pour mener la révolution jusqu'à la victoire ». Cela équilibre une situation biaisée où le régime utilise la violence seulement pour se maintenir. Sa légitimité, qu'elle soit politique ou religieuse, n'existe plus. Et pour Reza Pahlavi, il faut en finir avec les mollahs. L'Europe a enfin décidé d'inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des groupes terroristes. La France a été l'un des derniers pays à y consentir, mais comme on dit en français, mieux vaut tard que jamais. Et il confiait qu'une intervention était pour affaiblir le régime et donner au peuple une chance d'agir nécessaire. Mais il faut écouter le fils du Shah donner sa version au lendemain de l'installation de Khomeini en Iran avec la bénédiction du gouvernement français. Ils imaginaient Khomeini comme un sage, une sorte de Dalai Lama peint en vert qui s'installerait tranquillement à Qom. Je n'isole pas la France dans ce choix. Elle a suivi la ligne de Jimmy Carter, qui était alors fermement opposé au régime de mon père. Il raconte qu'il était partisan de créer une barrière islamique pour contenir l'ingérence communiste. C'était une erreur d'analyse collective et une méconnaissance profonde de l'islam politique, à lire dans Le Point.
Et les Iraniens misent sur l'espoir d'un changement.
Oui, alors c'est ce qu'écrit Patrick Saint-Paul dans son éditorial du Figaro intitulé justement « L'espoir d'un changement ». Pour les Iraniens, souligne-t-il, le massacre à grande échelle du mois de janvier était celui de trop, un point de non-retour. Ils ont compris que ce régime n'était pas réformable. Après la mort de leur guide, les foules en liesse cultivent l'espoir d'un vrai changement. Le président américain les appelle à saisir le moment à prendre le pouvoir. Et Saint-Paul d'ajouter « Que peut le peuple iranien désarmer face aux gardiens de la révolution, fort de 200 000 hommes aguerris et qui jamais, jamais n'ont hésité à tirer sur la foule. Tout le monde le sait, les éditorialistes en sont conscients, l'absence d'une opposition organisée sur le territoire complique singulièrement la donne.
Et comment la classe politique a-t-elle réagi aux frappes et surtout à la mort du guide suprême iranien ?
Ben, la France ne peut que se satisfaire de la mort d'un dictateur sanguinaire, entre guillemets, qui a opprimé son peuple, avilit les femmes, les jeunes, les minorités et qui est tenu pour responsable de la mort de milliers de civils dans son pays, a déclaré Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, lors du grand jury hier matin. Et Jordan Bardella est lui convaincu que le régime iranien est considérablement affaibli par l'élimination de Khamenei et que ses structures sécuritaires sont lourdement touchées. Le président du RN a défendu l'idée d'un changement de régime légitime et durable à condition qu'il résulte d'un soulèvement du peuple iranien. Alors, précaution partagée par son homologue de LR, Bruno Retailleau, qui salue toutefois un tournant historique, ne nous leurrons pas sur les conséquences d'un retour unilatéral à la force qui ne peut déboucher que si le peuple iranien parvient à reprendre en main son destin, a écrit le candidat à la présidentielle avant l'annonce de la mort de Khamenei. Et sans surprise, écrit encore le Figaro, Jean-Luc Mélenchon s'est indigné de la négation de tout droit international des États-Unis et d'Israël, dont les dirigeants seraient animés par une volonté suprémaciste, je cite. Et si le triple candidat à l'Élysée qualifie Ali Khamenei de bourreau du peuple iranien, il estime que sa mort ne justifie pas les moyens qui l'ont provoqué.
Et dans les Échos, le directeur de l'Institut français des relations internationales a donné un entretien.
Oui, alors Marc Ecker le dit clairement, nous avons affaire à un régime autoritaire qui a ancré ses structures depuis 47 ans. Pour que le régime bascule, il faudrait qu'une partie de l'appareil sécuritaire vire de bord. La population seule et désarmée a peu de chances de pouvoir renverser une telle dictature. Donc, tant qu'une partie des structures sécuritaires ne bascule pas du côté des opposants, cela ne bougera pas. Par ailleurs, une partie du peuple soutient la théocratie. Au fil des décennies, le régime s'est évertué à endoctriner les masses. Et pour le patron de l'IFRI, une telle entreprise d'endoctrinement idéologique ne s'efface pas du jour au lendemain. Et comme le souligne dans Le Parisien Amélie Chély, auteure du livre « Iran, autopsie du schisme politique » aux éditions du Cerf, le régime est assez vissé pour fonctionner sans guide suprême. Juste en dessous de lui, il y a 5 ou 6 entités de la même importance. L'Iran compte 16 services de renseignement. L'intelligence du verrou réside aussi dans leurs 2 armées, l'une idéologique, l'autre non idéologique. Et lorsqu'elle est sous pression, sa structure est conçue pour se rassembler plutôt que pour s'effondrer, estime le magazine américain Foreign Policy.
Et puis la guerre des chefs continue de plus belle à Nice.
Oui, alors là, on passe à la France, évidemment. On a appris, vous l'avez peut-être vu, Liselotte, que le président des Républicains des Alpes-Maritimes, Charles Ginesi, avait apporté son soutien à Éric Ciotti, candidat UDR et RN à la mairie de Nice, contre son grand rival, Christian Estrosi. Rien de très naturel vu de Nice, écrit l'Opinion, car LR UDR siège dans les Alpes-Maritimes au sein de la même majorité départementale, sans que la direction nationale des Républicains s'en émeuve. Une union des droites décomplexée qui a contraint Bruno Retailleau à réagir vendredi en prenant son téléphone. Et depuis, le patron LR des Alpes-Maritimes s'est mis en congé du parti. Cette bataille rangée, évidemment, a été déclenché, rappelons-le, depuis les trahisons de Christian Estrosi et notamment son ralliement précoce, comme le rappelle l'Opinion, lors de la campagne présidentielle de 2017. Emmanuel Macron, il avait lâché François Fillon, d'où la rencontre Fillon-Ciotti il y a quelques jours sur la croisette.
Merci,
voilà.
Gilles.
À demain.
Vous restez avec nous pour la Zone Libre.
Zone Libre.
C'est terrible ce qui se passe en Iran et en même temps, c'est toujours l'occasion de rappeler quel est ce pays, quelle est sa richesse. C'est Pierre Connaisseur qui nous disait qu'ils ont quand même une histoire qui est plurimillénaire, une culture extrêmement profonde. C'est vrai qu'il n'y a pas quelques Occidentaux qui ont tendance à oublier ou voire mépriser cet aspect-là. Et donc, c'est toujours l'occasion de le rappeler.
Oui, puis je pense que c'est un pays, j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui sont allés en Iran et qui ont, ou même des Iraniens qui, évidemment, dans toute la diaspora iranienne qui est en Europe et sur les dents. Et je pense que c'est une lueur d'espoir qui s'est passée depuis deux, trois jours. Et je pense aussi qu'on vit avec l'Iran, c'est-à-dire qu'on importe pas mal de choses d'Iran, hein, faut pas l'oublier. Moi, j'ai des amis qui sont importateurs de pistaches, de roses, qui ont encore des terres là-bas. Et c'est un pays, mais alors, c'est comme le disait Régis Le Sommier, c'est un pays qui est tellement immense, je crois que 5 fois la France. Et puis, tout est verrouillé aujourd'hui. Donc, c'est pas simplement une révolution de palais. Il faut vraiment qu'il y ait une révolution qui... Et puis, il n'y a pas d'opposants sur place qui puissent fédérer toutes ces oppositions. Alors, reste... C'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu, Reza Pahlavi. Je sais qu'il y a le pour et le contre. Je sais que c'est un agent, entre guillemets, des Américains, des Israéliens. Mais c'est le seul qui pourrait peut-être faire l'unité du pays en en donnant de la démocratie au peuple, c'est ce qu'il a promis s'il revenait au pouvoir. Et là, évidemment, tout est ouvert.
Nous verrons bien et on va continuer d'en parler de toute façon, je pense, tout au long de la semaine au moins. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous.
Mais je vous
matin.
En prie, à demain.
À demain. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur YouTube et sur X. Le direct prend fin, vous pouvez continuer à nous écouter sur la bande FM ou sur rc.fr, vous êtes très nombreux à le faire, donc n'hésitez pas, Radio Courtoisie, c'est toute la journée. Si jamais vous voulez qu'on puisse continuer à émettre, en revanche, il faut rejoindre les quelques auditeurs qui sont aussi les donateurs de Radio Courtoisie.
Alors, ils sont nombreux, mais ne représentent que 2% de l'audience totale. Donc, si vous écoutez Radio Courtoisie, que vous ne nous soutenez pas encore financièrement, eh bien, merci de le faire si vous le pouvez sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Un grand merci d'avance.
Voilà, et merci à ceux qui donnent déjà, qui vous permettent d'écouter ces programmes. Tout de suite, flambée de l'Iran, flambée du pétrole, c'est avec Philippe Charlet.
Ligne droite. Debout les Français.
Et nous débutons avec Philippe Charlès. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte.
Vous êtes ingénieur des mines de l'école polytechnique, docteur en physique, expert en questions énergétiques. C'est pour ça qu'on vous reçoit. Et puis vous êtes auteur notamment des 10 commandements de la transition énergétique. Alexandre de Galza a très bien introduit notre entretien, Philippe Charlès, en mentionnant cette influence que pourraient avoir les frappes en Iran sur le prix du pétrole ici en Europe et plus particulièrement en France. On va s'intéresser spécifiquement ensuite à ce blocage du détroit d'Ormuz qui, bien évidemment, est la clé de voûte de toute cette crise. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dresser un bilan général de la situation pour le moment, le prix du baril qui est environ à 80 dollars, il me semble, et comment est-ce que ça devrait évoluer?
Alors bon, peut-être commencer par avoir une pensée pour nos amis iraniens en espérant qu'ils puissent se libérer de ce régime absolument abject qui les martyrise depuis pratiquement, 1979, donc ça fait 47 ans. C'est même 47 ans presque jour pour jour, hein, puisque le régime est arrivé en place en janvier 79, donc ça fait vraiment 47 ans jour pour jour. Alors pour répondre à votre question, je vais dire que le baril n'a pas attendu les frappes américaines pour augmenter. Il y avait déjà des inquiétudes. On s'était vu, si je me souviens bien, début janvier, alors que le prix du baril était plutôt assez bas. Puisque on était à, il était tombé, je crois même juste en dessous de 60 dollars début janvier. Alors j'ai pas vérifié ce matin, mais disons que samedi il était à 73 dollars, pas à 80. Donc 60, 73 dollars, ça a l'air de rien, mais ça a quand même pris 20% depuis un mois. Et tout cela avant les événements de samedi. Et donc, bon, il va y avoir un impact incontestable et je vous rejoins un peu. Je ne serais pas surpris qu'il flirte avec les 80 dollars cette semaine. Alors, quel impact pour les Français? On peut se dire que Globalement, alors c'est pas disons au centime près, mais qu'une augmentation de 10 dollars du baril, la répercussion c'est de l'ordre de 5 centimes par litre sur le litre de carburant. Donc ça veut dire que ça avait déjà largement augmenté de 5 à 6 centimes et on pourrait reprendre 5 centimes dans les semaines à venir, ce qui fait quand même une augmentation de 10 centimes, c'est quand même assez important. Alors est-ce que ça peut aller plus loin? Justement, on peut peut-être en discuter.
Alors justement, la France est censée avoir des réserves pour pouvoir encaisser ce genre de crise. On se situe, selon les différentes sources, autour des 90 jours d'autonomie avant que ça ait des répercussions sur la France. Est-ce que là, cette évolution du prix du baril, elle va nous toucher dans les jours qui viennent, Philippe Charlez, ou effectivement, est-ce qu'on a environ 2-3 mois avant d'en sentir les effets?
Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que globalement, le prix du baril, il est mondial. Et il n'est pas nécessairement lié à une pénurie immédiate, il est aussi l'image d'une inquiétude sur les marchés futurs qu'on appelle les marchés à terme, puisque le pétrole ne se vend pas au jour le jour, il se vend aussi sur un marché à terme à 3 mois et même 6 mois. Et donc ça veut dire que globalement, là, on peut déjà avoir une influence sur le marché à terme. Donc ça ne veut pas dire, parce qu'on a des réserves stratégiques, que ça n'aura pas d'impact sur le prix. Ça veut dire que si on a des réserves stratégiques, par contre, pendant 3 mois, s'il y avait pénurie, on peut tenir pendant 3 mois. Donc il faut bien différencier le prix de la réserve stratégique. Le pétrole, ça circule partout de façon facile, si j'ose dire. Un pétrolier qui est à mi-chemin entre l'Angola et la France, il peut changer la cargaison, le propriétaire peut changer en cours de route, ça change une vingtaine de fois sur les marchés. Quand j'étais en Angola à l'époque, au début des années 2000, j'étais responsable d'un asset et les pétroliers que j'envoyais en Europe, ils changeaient de propriétaire de cargaison une vingtaine de fois. Donc ce qui veut dire que c'est pour ça que c'est un marché mondial. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un peu plus cher pour avoir la cargaison vient chez vous, et donc c'est pour ça que le marché mondial est imprimé par ce pétrole qui est liquide et qui est donc transportable extrêmement facilement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas échapper au marché mondial. Alors il y a un seul pays qui échappe, et encore un tout petit peu, puisqu'il a son propre marché, ce sont les États-Unis, où effectivement on peut observer à certains moments, quand le pétrole augmente de façon assez marquante, un prix du pétrole aux États-Unis qui augmente moins que le pétrole en Europe ou au Moyen-Orient. On pourra revenir là-dessus. Les États-Unis sont complètement protégés de cette crise, puisqu'aujourd'hui, ils produisent plus qu'ils consomment. Ils sont même légèrement exportateurs depuis l'année dernière, ce qui est d'ailleurs une nouvelle historique, puisqu'ils ne l'avaient jamais été avant.
Alors c'est probablement pour ça qu'ils ont pu enclencher ces frappes sans se soucier de ce genre de détails, j'imagine.
Alors, il y a incontestablement, et si on relit ça au Venezuela, des arrière-pensées de Donald Trump. Les États-Unis, donc, comme je vous dis, sont complètement autosuffisants, alors que leur grand ennemi, grand concurrent, la Chine, elle, est extrêmement dépendante des importations pétrolières. La Chine est dépendante à 80% de ses importations pétrolières. La Chine ne produit que 4,3 millions de barils jour et en consomme 16,4. Donc vous imaginez la différence. S'il y a une chose dans laquelle la Chine a une épine dans le pied, c'est vraiment le pétrole. Elle domine le monde dans tous les domaines, notamment les métaux critiques par exemple. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel elle est extrêmement fragile, c'est le pétrole, avec, je vais dire, deux goulots géographiques mondiaux. Il y en a deux. Le premier, comme vous l'avez cité, c'est le détroit d'Ormuz, où transite pratiquement 20% du pétrole mondial. Votre collègue l'a rappelé tout à l'heure. Et puis vous avez un deuxième détroit. Alors pour l'instant, lui, il n'est pas concerné par le conflit, qui est le détroit de Malacca. Donc c'est-à-dire que c'est ce détroit qui est entre la presqu'île de Malaisie et l'énorme île de Sumatra, hein, avec la pointe à Singapour. C'est extrêmement étroit, c'est extrêmement peu profond. Il suffirait de couler 2 ou 3 pétroliers au large de Singapour dans le détroit de Malacca pour stopper tout le trafic pétrolier qui est aussi important, sinon plus important que dans le détroit d'Ormuz pour empêcher le pétrole d'arriver, puisque c'est vraiment l'accès entre l'océan Indien et la mer de Chine. Mais pour l'instant, je ne fais que le signaler, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème là. Mais donc, ça veut dire que si les États-Unis veulent pénaliser la Chine, bon, ils ne vont pas ouvertement aller couler des pétroliers dans le détroit de Malacca. Donc, ça veut dire que le blocage du détroit d'Ormuz est un moyen assez efficace pour les États-Unis pénaliser la Chine. Et donc, je vais dire que si les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz, je ne suis pas certain qu'ils interviendront rapidement, ou du moins qu'ils feront mine d'intervenir rapidement, parce que quelque part, ça peut aussi les arranger.
Alors, hier, Philippe Charles, les pays de l'OPEP ont annoncé augmenter leur quota de production de barils journaliers pour répondre à la crise. Concrètement, là encore, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est une solution pour nous, occidentaux ?
Oui, donc c'est-à-dire que le marché, comme je vous l'ai dit, du pétrole n'est qu'un marché offre-demande. Si vous baissez l'offre et que la demande reste constante, fait augmenter les prix mécaniquement. L'inverse est vrai, hein, quand il y a un surplus de pétrole par rapport à la demande, le prix du baril s'effondre. Et donc là, oui, c'est une réponse prévisionnelle, si j'ose dire, au fait que le détroit d'Ormuz est fermé pour l'instant et que l'augmentation du prix du baril est prévisionnelle par rapport à la baisse de production iranienne, bien que pour l'instant, j'ai remarqué que les frappes américaines n'avaient pas été dirigées sur les installations pétrolières et gazières, que ça se concentrait sur des cibles militaires et entre guillemets politiques, je vais dire. Donc ça veut dire que cette réponse, oui, c'est pour rassurer les marchés. Nous avons finalement une capacité, nous, OPEP, d'augmenter la production. L'OPEP dont fait partie l'Iran, hein, il faut savoir. Et donc, effectivement, ça peut rassurer au moins à court terme les marchés, encore une fois, bien au-delà des réserves stratégiques, pour essayer de faire baisser le prix du baril, ou du moins pas le faire baisser, mais essayer qu'il n'augmente pas dans des proportions, pharaoniques. Hein. Il suffit qu'il y ait vraiment des grosses, grosses inquiétudes, et puis on peut atteindre assez facilement les $100, voire plus.
On a un directeur de recherche à l'IRIS, Francis Perrin, Philippe Charles.
Oui, que je connais bien et que je salue d'ailleurs à l'occasion.
Qui disait dans la presse hier que si cette crise durait, et donc si ce blocage du détroit d'Ormuz durait, ça pourrait être un suicide stratégique pour Téhéran. Est-ce qu'effectivement, selon vous, c'est le genre de crise qui peut s'installer dans le temps, ou est-ce qu'au contraire, on est face quand même à un embrasement très, très rapide, mais qui est quand même amené à se résoudre dans les jours à venir?
Alors, vous avez dit le mot suicide, et je vais rebondir dessus. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue que l'Iran est un régime totalitaire, et qu'un régime totalitaire se suicide jusqu'au boutisme. Mmh. Ce que je veux dire, si on les regarde dans l'histoire, d'ailleurs je vais faire un petit parallèle un peu cocasse, mais je dirais que le déni jusqu'au boutisme pourrait faire une analogie avec un parti politique français et dire que toute coïncidence est le fruit du hasard. Mais il est certain que, et on le voit, que le régime iranien ne renoncera pas. Il ira jusqu'au bout, jusqu'à la dernière victime, Et d'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle, et bon là c'est pas mon métier, hein, mais disons que j'ai comme vous suivi de près l'actualité au cours des deux derniers jours, et on voit qu'effectivement la plupart des observateurs considèrent que sans intervention au sol et sans révolte du peuple iranien, les mollahs ne renonceront pas. Et donc ne pas renoncer, ça veut dire qu'effectivement, même s'ils suicident leur industrie, pétrolière, ils feront tout pour finalement ne plus avoir qu'un rôle de nuisance, parce que l'issue militaire, ça on la connaît, ils peuvent pas résister. Et donc d'ailleurs il y a un expert militaire qui expliquait hier qu'ils avaient un moyen assez facile de fermer le détroit d'Ormuz, mais alors de façon, je vais pas dire pérenne, mais enfin de façon longue, c'est d'envoyer des mines flottantes dans le détroit d'Ormuz, et puis évidemment plus aucun bateau n'y se risquera. Et puis on sait que pour déminer, ça peut prendre énormément de temps. Donc je partage l'avis de mon ami Francis Perrin, c'est-à-dire que les Iraniens ont les moyens, je vais dire techniques, et n'hésiteront pas, à mon avis, à essayer de fermer ce détroit. D'ailleurs, il y a déjà eu un pétrolier qui a été visé hier. Bon, alors ça reste symbolique pour l'instant, mais cela étant, c'est quand même un message assez clair qu'ils iront réellement jusqu'au bout.
Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron est à la hauteur de cette crise ? Philippe Charlet nous a déjà annoncé convoquer un conseil de défense. On le sait, il va essayer de s'engager sur ces questions, parce qu'il aime bien donner son avis sur tout. Et on en est ravis. Mais voilà, est-ce qu'il est à la hauteur, une fois de plus, de ce qui se passe ?
Alors là, vous me posez une question qui sort un petit peu, je vais dire, de mon expertise. Je vais dire que je dirais simplement, alors là, je vais retirer peut-être ma casquette d'expert et me permettre de remettre une casquette de citoyen français, si vous me l'autorisez. Je vais dire que aujourd'hui, bien au-delà d'Emmanuel Macron, c'est quand même l'Europe qui est totalement absente de ce conflit, et on voit sa faiblesse diplomatique générale. D'ailleurs, je crois que le président a dit, et à mon avis, il n'aurait pas dû le dire, qu'il n'avait absolument pas été averti de l'événement. Donc ça veut dire qu'il est complètement mis de côté. Les seuls Européens qui seraient encore peut-être un petit peu dans le jeu sont les Britanniques. Mais tous les autres sont absents, et d'ailleurs, on l'a vu, hein, la réponse diplomatique européenne est d'une cacophonie absolument confondante et affligeante.
Merci beaucoup Philippe Charlès pour votre analyse, votre expertise. Effectivement, cette dernière question sort un peu de votre champ professionnel.
Mais je vous ai répondu.
Mais voilà, on était quand même ravis d'avoir votre avis. Je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup les auditeurs. Et dans tous les cas, on va pouvoir apprécier les effets de cette crise dans les jours à venir, si on vous suit bien. Donc on aura de quoi vous réinviter.
Oui, wait and see, donc voilà. À votre disposition pour venir en reparler. Dans peu de temps pour voir
commentera
exactement
notre et... douleur à la pompe à essence avec vous, Philippe Charlès.
Voilà.
Merci beaucoup.
À vous. 7h,
10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir de vous offrir cette émission, de décrypter l'actualité de cette façon que vous n'entendez pas ailleurs. Pour qu'on puisse continuer cette mission de l'information, eh bien, il faut nous soutenir.
Radio Courtoisie est une radio indépendante, vous le savez, cela veut dire qu'elle l'est uniquement financée par ceux qui l'écoutent, uniquement soutenue par ses auditeurs. Alors pour soutenir Radio Courtoisie, c'est simple, vous pouvez partager nos contenus, parler de Radio Courtoisie autour de vous et particulièrement de cette émission matinale Ligne Droite, mais aussi faire un don en vous rendant sur l'adresse suivante, soutenir.rc.fr pour faire votre don. Nous vous remercions par avance.
Quel est le programme du jour ?
Restez bien avec nous dans un instant, la philosophie de Bergson dans le monde de la philosophie d'Élie Thoras. À midi, le libre journal de la transmission de Valérie Daubigny, la lecture en question, notamment au programme aujourd'hui. À 17h, culture et politique de Richard Haddad et Pierre-Henri. 17h30, restons courtois, Pierre-Alexandre Bouclet aux commandes de l'émission d'aujourd'hui. 19h30, le libre journal du lundi soir de Thierry Lindes. Et à 21h30, notre soirée musicale en compagnie de Claudia aujourd'hui.
Voilà, et nous on se retrouve demain à 7h. Bonne journée, chers auditeurs.
Bonne journée à tous.